Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Pauline Leduc.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Dans ces temps mystérieux et angoissants de pandémie du Covid-19, quand des économies entières sont à l'arrêt, quand leur redémarrage laisse à découvert la casse sociale provoquée par la crise économique, quand les frontières se ferment et s'ouvrent à grand-peine, les échanges commerciaux sont difficiles. C'est le cas pour les produits industriels, mais aussi pour les produits agricoles. Écoutez d'ailleurs ce que disait cette semaine, à ce propos, sur l'antenne de RFI, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.
Naturellement, il y a des choses à faire dans le cadre du continent africain lui-même. L'appui aux agriculteurs, l'ouverture de couloirs pour le mouvement des denrées alimentaires, le perfectionnement des marchés, etc. Mais après, il faudra aussi naturellement prendre des mesures à l'échelle globale, éviter par exemple des restrictions d'exportation de pays qui exportent des denrées dans l'Afrique et augmenter notre capacité du point de vue du Programme alimentaire mondial et d'autres institutions pour l'appui aux situations qui sont des situations de drame humanitaire.
C'est à ces questions agricoles, en Afrique mais pas seulement, que cette émission est consacrée. Quel est l'impact de la pandémie de Covid-19 sur la circulation des denrées de base de notre nourriture? Le blé, le riz ou encore le maïs, pour ne citer que ces produits-là, sont-ils bloqués dans des silos loin des consommateurs? Leur prix flambe-t-il ou s'effondre-t-il au contraire? L'aspiration à des politiques d'autosuffisance alimentaire est-elle renforcée ou les paysanneries sont-elles encore une fois abandonnées à leur sort? Toutes ces questions et bien d'autres posé aux trois invités que je vous présente maintenant. Bonjour Patricio Mendez-El-Villar.
Bonjour Jean-Pierre.
Patricio Mendez-El-Villar, vous êtes économiste au CIRAD, le Centre de Recherche Agronomique pour le Développement. Vous êtes un grand spécialiste du marché mondial du riz et des filières rizicoles en Afrique de l'Ouest. Vous suivez également les dynamiques agricoles en Afrique de l'Ouest et du Centre et leur impact sur la sécurité alimentaire. Avec vous dans cette émission, Sébastien Abyss, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Sébastien Abyss, vous êtes chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Vous dirigez par ailleurs le club de réflexion Déméter, qui se consacre aux analyses des enjeux agricoles et alimentaires internationaux. Vous publiez tous les ans la synthèse de vos analyses sous la forme d'un livre qui s'appelle le Déméter, dont la dernière édition vient d'ailleurs de paraître. Et je termine ce premier tour de table, pour ainsi dire, puisque bien qu'il n'y ait personne autour de la table, par vous Frédéric Courleux, bonjour.
Bonjour.
Frédéric Courleux, vous êtes ingénieur agronome et directeur des études du Centre de réflexion Agriculture Stratégie. Vous vous intéressez en particulier aux questions européennes. Au cours de cette émission, des reportages et des rencontres avec nos correspondants, bien sûr. Nous avons rendez-vous avec Coralie Pierret à Bamako, au Mali, Eric Sanson à Quito en Équateur, Daniel Valot à Moscou en Russie et Yaya Boudani à Ouagadougou au Burkina Faso. Selon l'assureur de crédit international Coface, la pandémie de Covid-19 devrait faire chuter cette année les échanges commerciaux mondiaux de plus de 4%. Sébastien Abyss, est-ce que les échanges agricoles sont concernés par cette baisse ?
D'abord, je pense que c'est important de rappeler pour tout le monde que les questions alimentaires et agricoles sont importantes en temps extraordinaire, mais aussi en temps ordinaire, et que finalement la crise du Covid, qui est une crise systémique et multidimensionnelle, finalement exacerbe un certain nombre de tensions sur des marchés qui sont déjà fortement sensibles. Ils sont sensibles parce que on ne produit pas de tout partout sur la planète et on a besoin de déplacer certaines productions entre les régions pour rapprocher l'offre et la demande. Et nous avons des consommateurs qui, partout dans le monde, ont souhaité progressivement, depuis 20 ans, consommer de tout le temps. Et finalement, entre l'équation géographique et l'équation d'une société qui voulait consommer le monde tout au long de l'année, nous avons des flux commerciaux qui ont été, sur longue distance, rendus nécessaires. Donc évidemment, le ralentissement du commerce mondial pour des raisons logistiques, pour des raisons de fermeture temporaire de frontières, voire de restrictions à l'export pour certains pays, on en parlera sans doute, a un impact depuis 2-3 mois sur le commerce mondial, y compris agricole et alimentaire. Néanmoins, il faut vraiment le relativiser, au sens où le monde agricole est resté sur le front, y compris d'un point de vue logistique. Donc il y a eu des contrariétés, il y a eu des ralentissements, il peut avoir des renchérissements tant de produits que des coûts de transport et de manutention des différents volumes à déplacer. Mais le système alimentaire tient à la fois au niveau mondial et dans les pays qui comptent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des difficultés ou des tensions localisées, mais la plupart, disons, des tensions qu'on a pu observer depuis deux mois et demi sont liées d'une part à soit des mesures politiques unilatérales qui remettent en question des accords commerciaux ou qui montrent que les États, quand on parle de sécurité alimentaire, on parle de leur sécurité tout court, donc ont tendance à privilégier le domicile au détriment des flux internationaux.
Sébastien Bis, au mois d'avril dernier, donc en pleine pandémie, la FAO estimait que cette épidémie mettait en danger l'équilibre du système alimentaire mondial. Aujourd'hui, on a un peu plus de recul. Est-ce que vous confirmeriez cet avis, cette opinion de la FAO ?
Ben oui, parce que l'avis de la FAO était extrêmement pertinent sur un point, c'est que ces équilibres reposent encore une fois sur des systèmes qui ont besoin de fonctionner de manière assez mutualisée, et qu'à partir du moment où si des États, si des opérateurs privés changent les règles de manière unilatérale, spontanée, au détriment des accords ou d'engagements contractuels, et que par ailleurs vous avez des phénomènes de peur excessive sur les marchés qui emballent le cours des produits, mais en même temps, comme l'avait dit la FAO, grande problématique surtout socio-économique, c'est-à-dire que la baisse de revenus dans un certain nombre de pays dans le monde entraîne des difficultés aussi à pouvoir consommer. Donc il y a eu des phénomènes de panique, il y a eu des phénomènes de difficultés d'accessibilité à l'alimentation, y compris parce qu'un certain nombre d'opérateurs ont fait un peu leur course aussi sur le marché mondial pour anticiper d'éventuelles prolongations.
Ça veut dire quoi ça ? Certains opérateurs ont fait leur course ?
Bah parce que comme vous et moi, en période de confinement, on a voulu faire des stocks à domicile et acheter de la nourriture au cas où la période allait s'éterniser et qu'un certain nombre d'opérateurs a eu tendance un peu à surjouer les achats en prévision éventuelle de périodes longues de difficultés logistiques, voire de problèmes de récolte. Et je voudrais finir juste là-dessus. L'inquiétude, me semble-t-il, doit être surtout projetée sur les prochains mois parce qu'encore une fois, nous avons commercé grosso modo, pendant la période du Covid, ces deux derniers mois, des récoltes des derniers mois, voire de l'an dernier. La tension alimentaire mondiale, il faut la porter sur les prochains mois parce que la récolte en cours et les productions cette année pourraient être altérées à la fois pour des raisons liées au Covid et les difficultés de travailler, y compris en agriculture, mais aussi des conditions climatiques cette année qui sont moins favorables. Donc la vigilance, elle est à la fois à court terme d'un point de vue géopolitique sur les pratiques des uns et des autres, et à moyen terme sur les conditions climatiques et la difficulté de produire cette année qui est bien plus forte que par le passé sur les enjeux justement de la sécurité alimentaire de l'an prochain.
C'est votre avis pour ce qui est par exemple de l'Europe, Frédéric Courleu ?
Je pense qu'on est on est encore au début des conséquences sociales de cette crise sanitaire. Ça va sûrement être du côté des bouleversements sur la demande que vont se jouer les prix pour les prochains mois. On le voit déjà sur la plupart des matières premières. C'est plutôt l'effet de la baisse du prix du pétrole qui aujourd'hui a un impact soit sur une certaine stabilité des prix des céréales, voire une baisse sur des produits comme le sucre. Aujourd'hui, on est dans l'attente. Il y a des enjeux très importants d'un point de vue de l'aide alimentaire, y compris en Europe. On n'a pas de boule de cristal. Les conséquences sociales seront prédominantes dans l'évolution des marchés agricoles et alimentaires des prochains mois.
Mais quand vous dites les données sociales seront primordiales, est-ce que ça veut dire que c'est le milieu agricole qui est frappé ou est-ce que c'est l'impact de la demande dans des milieux urbains affectés par le chômage et la crise économique ?
Voilà, c'est plutôt ça. C'est plutôt aujourd'hui le monde agricole et toute la chaîne agroalimentaire a plutôt montré sa résilience. Il y a des problèmes dans certains abattoirs où le virus s'est largement propagé. Mais voilà, le système est quand même assez robuste, en tout cas en Europe. Le problème viendra davantage d'évolution du côté de la demande et donc des conséquences sociales à venir.
Sur le marché du riz, Patricio Mendes del Villar, est-ce que il y a eu cette résilience dont parlait Frédéric Courleu à l'instant?
Alors, effectivement, cette résilience, on la trouve aussi dans le monde du riz, si je veux dire au niveau de la production, que pour l'instant, les perspectives de récolte sont plutôt optimistes, mais je rejoins de ce qui a été dit tout à l'heure aussi, c'est que les conditions de production, les conditions climatiques font qu'il va falloir faire très attention aussi de ce qui va se passer dans les prochains mois. En attendant, pour le marché du riz, Et je dirais qu'il y a assez de riz actuellement chez les exportateurs. Et on le voit au niveau des prix qu'ils commencent à se stabiliser, même si ils ont quand même pris à peu près 20% de plus par rapport au début d'année. Mais la situation, si on peut dire, elle tend à se stabiliser, à se calmer. Et les perspectives pour cette année de production, elles sont plutôt bonnes, puisque justement, comme les prix sont plutôt tendance à la hausse, ça pourra inciter les producteurs à semer davantage dans les semaines, dans les mois à venir. Donc, je suis plutôt optimiste de ce côté-là.
Est-ce que ça veut dire que les producteurs africains, par exemple, on sait que le gros de la production de riz est en Asie, que les principaux exportateurs, c'est la Thaïlande, c'est le Vietnam. Est-ce que ces pays-là ont été loyaux? Est-ce qu'ils ont vendu? Est-ce qu'ils ont honoré les contrats? Ou est-ce qu'ils ont profité de la hausse pour renégocier, par exemple, la destination des consommateurs africains?
Alors, comme vous savez, il y a eu une mini-crise sur le marché du riz fin mars, début avril, et on a pensé bien évidemment à la crise de 2008.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé fin mars, début avril? Dites-nous.
Alors, fin mars, il y a eu le Vietnam qui a annoncé qu'il allait limiter les exportations, enfin, en tout cas de passer de nouveaux contrats, car il fallait qu'ils fassent un petit peu le bilan, le point sur leur disponibilité pour le marché intérieur. Une semaine après, il y a eu l'Inde, qui est le premier exportateur mondial, qui a annoncé que pour des raisons logistiques, et non pas de disponibles, enfin d'offres, et pour des raisons logistiques, ne pouvait pas assurer des nouveaux contrats à l'exportation. Et donc, ils ont aussi arrêté de passer de nouveaux contrats. Et donc, pendant une semaine, début avril, ça a été un peu la panique, parce que les importateurs se sont tournés, bien évidemment, vers la Thaïlande, qui est le deuxième exportateur mondial et qui, elle, n'avait pas limité ses exportations. Mais très vite, en fait, au bout de 10 jours, aussi bien l'Inde que le Vietnam sont revenus sur le marché. Ils ont annoncé qu'ils reprenaient leurs exportations normalement. Et la situation actuelle est à peu près celle-là, c'est-à-dire que les ventes à l'exportation de ces deux pays sont devenues à peu près normales, avec un petit ralentissement quand même, mais le marché fonctionne à peu près bien en ce moment, avec quand même des hausses
significatives, 20%. Alors, Patricio Mendez-El-Villar, un exemple de problématique soulevée par l'épidémie de Covid-19, avec ce qui se passe et se dit au Mali, le pays a depuis de longues années l'ambition d'être autosuffisant en riz, mais malgré ses efforts, il doit toujours en importer. Écoutez ce reportage signé Coralie Pierret, la correspondante de RFI à Bamako.
Les pieds ensevelis sous les grains, les marchands tamisent le riz du pays. Au marché de Niarela, on ne s'encombre pas avec les masques ou les gestes barrières anti-coronavirus. Comme à son habitude, le vendeur Amidou Traoré est enfoncé dans son fauteuil. Il a choisi depuis longtemps le Made in Mali et s'approvisionne avec le riz qui vient de Niono, dans le centre du Mali.
Il n'y a pas eu d'augmentation ni de baisse de prix. Je n'ai pas vraiment de stock ici, mais j'achète avec les paysans qui viennent de Niono tous les lundis et les vendredis. Et depuis l'épidémie, on n'a pas eu de problème de livraison.
À quelques rues, le magasin de la CNCC déborde encore de sacs de jute directement importés d'Asie. Pourtant, en arrière-boutique, le directeur commercial de la société, Ladji Traoré, traîne des pieds. Il s'inquiète de l'augmentation des prix causée par l'épidémie et de sa dépendance vis-à-vis de ses fournisseurs à Dakar.
Auparavant, bon, nous, on voyait les riz ici à 310, mais actuellement 325-330 000. On n'arrive même pas à trouver les riz dans l'extérieur. Il n'y a pas. Parce qu'il y a les fournisseurs qui ont refusé de vendre. Ils ont peur. Parce qu'ils ne savent pas comment les choses vont aboutir.
Ça veut dire que depuis qu'il y a la maladie, il n'a pas été possible de passer de nouvelles commandes.
Si le ministère du Commerce rassure sur les stocks disponibles malgré la crise de coronavirus, le débat sur l'autosuffisance en riz est relancé, car il existe bien un paradoxe malien. En 2019, le pays a produit plus de 3 millions de tonnes de riz, presque assez pour nourrir le Mali tout entier. Pourtant, la même année, 49 000 tonnes ont été importées. Étienne Fakabassi Soko est économiste à l'université de Bamako. Pour lui, cette crise est l'occasion de repenser les politiques économiques du pays.
Favoriser le Made in Mali peut aujourd'hui nous permettre d'échapper à cette situation de dépendance vis-à-vis du reste du monde. La crise est finalement l'électrochoc qu'il nous fallait, parce qu'au-delà de ces beaux discours, on ne voit pas le soutien de l'État aux agriculteurs qui pourrait aujourd'hui permettre au Mali d'être autosuffisant.
Au Mali, l'agriculture représente 30 à 35% du produit intérieur brut et 80% de la main-d'œuvre. Elle est le premier secteur du pays.
Un reportage signé Coralie Pierret à Bamako. Sébastien Abyss, est-ce que cette situation malienne illustre les difficultés auxquelles est confrontée l'Afrique, le continent africain, dont on dit souvent qu'il est mis en difficulté par cette crise sur le plan agricole en particulier?
Oui, c'est une illustration, même si évidemment l'Afrique, comme vous le savez, est un pluriel. Il faut parler des Afriques, les situations sont très contrastées d'un pays à l'autre. Mais globalement, on a une équation difficile sur ce continent, dans le sens où entre la croissance démographique et les évolutions de développement à l'œuvre ces dernières années, la demande alimentaire s'est accentuée, et même si quasiment tous les pays africains mènent des politiques publiques pour développer leur agriculture, renforcer leur sécurité alimentaire, miser sur l'innovation et bénéficier d'investissements qui sont nombreux aussi dans le secteur, pour des raisons, encore une fois, de sécurité alimentaire, mais aussi d'emploi, de maintenir des gens dans les ruralités, dans les campagnes, nous avons beaucoup de pays africains qui ont aussi besoin du marché international pour compléter et assurer 100% d'offres alimentaires sur leurs besoins domestiques. Ce qui fait que c'est très compliqué, parce qu'ils ont besoin à la fois de produire plus à domicile, ce qui pose des vraies questions en termes de science, ce qui pose des questions en termes de capacité humaine, de renouvellement de génération, qui pose des questions sur aujourd'hui l'utilisation du digital, de l'innovation technologique. Donc l'Afrique, les pays africains font toutes les révolutions agricoles en même temps. Elles doivent produire plus, elles doivent produire mieux, elles doivent réduire des gaspillages, elles doivent optimiser l'utilisation des nouvelles technologies et du digital dès maintenant pour construire plus de sécurité alimentaire, et en même temps elles ont besoin du marché mondial pour compléter des besoins. Donc c'est très compliqué. À plus forte raison que d'un point de vue géopolitique, malheureusement, certains pays africains ont des difficultés à produire plus, non pas parce qu'il n'y a pas les capacités, soit géographiques, soit humaines, même si, encore une fois, il y a des déficiences structurelles qu'il ne faut pas sous-estimer, sur le manque de terres, d'eau et de formation parfois dans certains pays, mais géopolitiquement, vous avez aussi un certain nombre de pays africains qui sont en souffrance, où les zones rurales sont plutôt occupées par des forces sociales dont l'objectif n'est pas forcément de proposer du développement, et où pour un certain nombre de paysans africains, la production n'augmente pas, parce que si on augmente les productions, on devient visible et on peut susciter des convoitises, et on peut susciter éventuellement des razzias et du pillage. Donc tout ça est très compliqué, parce que sur l'Afrique, on a aussi un vrai sujet de sécurité et de gouvernance autour du développement agricole. Le cas du Mali, me semble-t-il, l'illustre bien, malheureusement et tragiquement, ces dernières années.
Patricio Mendez-Elvillard, vous, ce reportage de Coralie Pierret à Bamako, qu'est-ce qu'il vous inspire sur la situation de la production rizicole? On entend ce commerçant nous dire qu'il a du mal à s'approvisionner.
Oui, comme le disait tout à l'heure l'autre intervenant, les situations sont contrastées. Et le cas du Mali, il est quand même particulier par rapport à d'autres pays. Parce que là, j'entendais dans le reportage, 3 millions de tonnes produites et 49 000 tonnes importées.
Ce qui est peu.
C'est trop peu. Effectivement, le Mali a les capacités d'être autosuffisant. Mais quand on voit ces chiffres, en réalité, on peut dire que le Mali est autosuffisant. Après, ce sont des questions de commerce, d'opportunités. Le fait que certains commerçants travaillent sur plutôt des produits importés plutôt que du produit locaux. Mais globalement, le Mali est dans une situation beaucoup plus confortable que celle d'autres pays, notamment le Sénégal. Le Sénégal, où le taux d'autosuffisance n'est que de 40%. C'est-à-dire que pour couvrir les besoins du pays, le Sénégal doit importer 60% de sa consommation. Et au niveau régional, au niveau de la sous-région, même l'Afrique subsaharienne, c'est à peu près pareil. Ça, c'est 60% de la production et 40% les importations pour couvrir la consommation. Donc là, on est dans une situation un peu particulière. Et si vous permettez, dans le cas du Mali, le fait que ce commerçant avait du mal à s'approvisionner. Effectivement, j'ai lu récemment que le Sénégal avait interdit les exportations de riz importé vers les pays limitrophes.
Ça veut dire que le Sénégal la joue perso, entre guillemets ?
C'est-à-dire que le riz qui est importé vers le Sénégal, le gouvernement a annoncé qu'ils interdisaient de réexporter ce riz-là vers les autres pays. Par contre, les pays limitrophes, et notamment le Mali, pouvaient importer directement en passant par le port de Dakar. Mais c'était, ça veut dire qu'il fallait que les importateurs maliens soient en lien, en contact direct avec leurs fournisseurs internationaux. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les commerçants maliens, ils passaient par des intermédiaires sénégalais. Et donc, c'est ça qui pose problème et qui peut-être explique la difficulté de ce commerçant à s'approvisionner auprès de ses fournisseurs sénégalais.
Mais est-ce que c'est un problème général ? Est-ce que les frontières se sont érigées ? Est-ce qu'il y a eu du protectionnisme agricole, Frédéric Colleux, au cours de cette période ?
En comparant avec ce qui est comparable, c'est-à-dire le début de la crise 2007-2008, on n'est pas du tout à ce stade sur la même ampleur. Donc je répondrai plutôt à la négative à votre question. Pour revenir sur le déficit commercial agricole et agroalimentaire qui se creuse en Afrique, c'est quand même un paradoxe incroyable compte tenu du potentiel de production que la plupart des pays africains ont. Et très concrètement, il faut se questionner sur la pertinence pour ces pays d'être directement connectés à des prix internationaux qui ne sont pas des prix d'équilibre, qui sont des prix de dumping, qui correspondent au dégagement, au surplus des grands pays producteurs. Pour le riz, je parle sous l'autorité de l'autre intervenant spécialiste
de Patricio Mendes-El-Villar, voilà.
De Patricio, c'est que voilà, le prix intérieur en Chine, en Inde, en Thaïlande est bien plus élevé que le prix international. Forcément, les pays africains tels que le Mali auront du mal à développer leur potentiel de production si ils ont des prix qui correspondent à un prix de dumping et non à un prix qui permettrait de développer la production. Sur les mesures aux frontières, et je pense qu'il faut avoir deux niveaux de lecture. Il y a un niveau de lecture de court terme qui, effectivement, dans cette période compliquée où il y a beaucoup d'interrogations, il n'est pas de bonne aloi de prendre des mesures de restriction au commerce, c'est évident. En revanche, si on a une vision un peu plus structurelle des choses, on peut se questionner sur le fait que certaines cigales, pour reprendre la métaphore des fables de La Fontaine, certaines cigales n'ont pas de stock, certaines cigales ne se soucient plus vraiment de leur sécurité alimentaire, et donc elles ont beau jeu de faire la leçon aux fourmis qui ont des stocks et qui assurent la sécurité alimentaire mondiale. Je pense aujourd'hui à la Chine notamment, qui détient plus de la moitié, 55% des stocks de fin de campagne en céréales.
Toutes céréales confondues ?
Toutes céréales confondues.
C'est-à-dire de blé, de maïs, de riz ?
Blé, maïs, riz, tout à fait. 55% des stocks de fin de campagne qui vont permettre de faire la soudure jusqu'à la prochaine récolte sont en Chine. Donc heureusement qu'on a la Chine comme stockeur en dernier ressort, parce qu'effectivement, on serait dans une situation beaucoup plus compliquée si on n'avait pas des stocks qui correspondraient au double de ce qu'ils étaient en 2007.
Patricio Mendes-El-Villar, vous confirmez le gros des stocks de riz mondiaux est en Chine ?
Oui, tout à fait. Pour le riz, c'est 60% des stocks mondiaux. En fait, si on compare par rapport à 2008, la Chine, à cette époque-là, avait à peu près 53 millions de stocks et actuellement, ces stocks dépassent les 180 millions. Donc, la Chine a fait un gros effort pour reconstituer ses stocks. Et ce qui a fait aussi que depuis les 5 dernières années, la Chine était le premier importateur mondial de riz, alors qu'elle est autosuffisante, mais c'était essentiellement pour reconstituer ses stocks.
Sébastien Abid, est-ce qu'on peut dire que la Chine tient le marché agricole mondial dans la main ?
Oh bah, la Chine, vous savez, tient le monde.
Oui, peut-être la Chine tient le monde, mais sur le plan agricole, est-ce qu'elle contrôle les stocks ? Est-ce que c'est vraiment le dernier secours vers lequel on peut se tourner en cas de crise ?
Je crois que c'est plus complexe, mais je crois que le fait que la Chine tient le monde et que depuis 10 ans, la sino-mondialisation est la marche principale de la globalisation, ça s'est traduit sur le plan agricole. Je rappelle que la Chine est à peu près le premier producteur de tous les grands produits agricoles du monde. C'est aussi souvent le premier acheteur mondial sur ses grands produits de base. Ce qui fait que la Chine a à la fois besoin du monde pour s'approvisionner et en même temps produit beaucoup. Ce qui fait qu'elle a des stocks colossaux. Donc évidemment, dans l'équation mondiale, si vous enlevez parfois la Chine des statistiques ou vous ne regardez pas les comportements à l'achat de la Chine, vous passez à côté d'une grande partie des explications. Mais ce qui est important surtout de constater aujourd'hui, je crois, par rapport à la dynamique géopolitique qui vient, c'est que la Chine, avec son projet de route de la soie, essaye de sécuriser ses approvisionnements alimentaires et donc a investi sur toutes les chaînes logistiques mondiales, mais aussi a acheté de l'industrie, a investi dans certaines régions du monde. Et en même temps, la Chine aujourd'hui dessine de nouvelles normes, de nouveaux règlements, s'infuse dans les enceintes qui comptent dans les organisations internationales, pour prendre aussi la main sur un certain nombre de dispositifs autour des politiques internationales et des grands accords, pour peser de tout son poids dans les contours de nouvelles gouvernances demain et de nouvelles normes. Et je crois que c'est important de le regarder. Il y a un exemple qui va très vite frapper dans les prochaines années, c'est toute l'explosion du e-commerce et de la digitalisation de l'agriculture. On a tendance à croire qu'il n'y aurait que des entreprises outre-Atlantique qui s'investissent dans ce domaine. Beaucoup d'acteurs du numérique chinois et du e-commerce chinois viennent massivement aujourd'hui sur le terrain de l'alimentation et de l'agriculture, et notamment sur le continent africain. Je rappelle qu'Alibaba a été hyper actif ces dernières semaines dans le cas du Nigeria et qu'il faut avoir aussi en tête ces dynamiques-là.
C'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons des échanges agricoles internationaux au temps du Covid-19 avec 3 invités, Sébastien Abyss, Patricio Mendes del Villar et Frédéric Courleux. Frédéric Courleux, sur cette place de la Chine donc sur laquelle vous insistiez, est-ce qu'elle a son mot à dire? Est-ce qu'elle influe sur l'organisation mondiale des marchés agricoles aujourd'hui?
Oui, tout à fait. Ce que Sébastien vient de dire est tout à fait juste. Les Chinois font preuve d'un volontarisme. Ils croient en eux et ils croient en leur volontarisme, alors que les Européens croient surtout dans les marchés et l'autorégulation des marchés. Je parlais de cigales tout à l'heure. L'Europe, aujourd'hui, a 43 jours d'équivalent de consommation en stock de fin de campagne. En Chine, il y a 9 mois de réserve en équivalent consommation. Donc, du côté européen, on est dans une position assez inconfortable. C'est que on appelle à la raison les pays, notamment exportateurs, à ne pas mettre de mesures de rétorsion aux échanges. Mais de l'autre côté, notre primauté européenne dans les accords internationaux et notamment du côté de Genève et de l'OMC, on continue à défendre des règles qui rendent illicite le stockage public stabilisateur. C'est même à la base du blocage du cycle de Doha depuis 2008 maintenant. Donc cette position est assez inconfortable pour l'Europe. Heureusement, l'Europe est bien sûr un grand pays producteur agricole, donc ces 43 jours sont à relativiser. Mais voilà, globalement, on voit bien et on peut espérer que cette crise nous permette à nouveau de tenter de re-questionner, de réinterroger des règles du commerce international qui aujourd'hui ne sont pas compatibles avec la sécurité alimentaire mondiale.
Alors, il y a un acteur important sur le marché des céréales, c'est la Russie, premier exportateur mondial de blé. Depuis quelques années, il a créé la surprise en annonçant à la fin du mois d'avril la suspension de ses exportations de céréales. Nous allons en parler avec le correspondant de RFI à Moscou, Daniel Valo. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Daniel, comment le gouvernement russe a-t-il justifié cette suspension de ses exportations de céréales? Comment cette décision est-elle justifiée?
Eh bien, écoutez, par la nécessité, on dit les autorités, de protéger le marché intérieur russe face d'abord à la crainte d'une pénurie, ensuite d'une flambée des prix qui serait provoquée par l'épidémie de coronavirus. En fait, c'est au début du mois d'avril que Moscou a annoncé un quota pour ses exportations de céréales, 7 millions de tonnes jusqu'au 1er juillet. Et ce qui s'est passé, c'est que dès la fin du mois d'avril, ce quota a été atteint. Résultat, la Russie ne vendra plus de blé ni de seigle, d'orge ou de maïs d'ici donc à la fin de ce mois de juillet, à l'exception de quelques pays qui appartiennent à l'Union Eurasiatique, la Biélorussie, le Kazakhstan, l'Arménie et le Kyrgyzstan. Alors, la décision a évidemment surpris les marchés, les observateurs et puis aussi pas mal inquiété les grandes organisations internationales comme l'OMC ou la FAO, ces organisations qui ont craint évidemment les répercussions de cette décision pour les pays les plus pauvres et une possible envolée des prix, envolée qui n'a pas cependant été observé pour le moment en tout cas.
Oui, il faut dire que la Russie, Daniel Valo, au moment de cette annonce, avait déjà quasiment bouclé sa saison.
Oui, alors l'annonce a surpris, elle a fait couler beaucoup d'encre, mais finalement ce quota de 7 millions de tonnes n'est pas si important au regard des 33 millions de tonnes de céréales qui avaient déjà été vendues par la Russie au cours de la saison 2019-2020. La Russie qui va d'ailleurs remplir ses objectifs à l'exportation et qui va conserver sans doute son rang de premier exportateur de blé. Alors il y a peut-être eu dans cette annonce finalement la volonté d'envoyer un message surtout à la population russe, un effet d'annonce pour montrer tout simplement que les autorités veillent au grain et pour rappeler au passage que la Russie est redevenue une superpuissance agricole, ce qui est tout de même l'un des rares succès économiques de ces dernières années pour le pays.
Oui, Daniel, le gouvernement russe a tout de même évoqué la possibilité de renouveler cette politique de quotas.
Oui, alors effectivement, mais ça, il pourrait s'agir là encore d'un effet d'annonce, d'autant que la pluviométrie en mai en Russie est beaucoup plus favorable qu'en avril. Les récoltes s'annoncent donc meilleures que ce qui était attendu. L'effet dévastateur du coronavirus pourrait donc s'amoindrir. Pour l'heure, en réalité, le gouvernement russe veut laisser visiblement toutes les options ouvertes. Mais il faut garder une chose à l'esprit, c'est que la Russie, sur le long terme, veut exporter de plus en plus de céréales. Elle est redevenue, je vous le disais, une grande puissance agricole et elle veut conforter ce statut.
Merci Daniel Valo à Moscou. Frédéric Courleux, est-ce qu'on peut avoir confiance dans la Russie, exportateur régulier de céréales ?
Je ne sais pas si on peut avoir confiance, mais ce serait, à mon sens, être trop léger que de ne croire que, en la bonne volonté des autres pays, que de fournir des marchés internationaux pour y provisionner son alimentation.
Mais avec cette, en pleine période de Covid, annoncer qu'il met fin à ses exportations, c'est quand même assez paradoxal.
Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour n'importe quel gouvernement, une politique agricole, c'est en premier lieu une politique macroéconomique qui permet de limiter des problèmes d'inflation. Concrètement, Vladimir Poutine, en annonçant ses limitations d'exportation, a voulu jouer non seulement sur un effet d'annonce, mais aussi bien réellement sur un levier qui lui permet d'éviter de l'inflation. Il faut ajouter qu'il y a 1 million de stocks de céréales qui ont été relarguées depuis les stocks stratégiques nationaux russes. Donc on voit bien que voilà, les politiques agricoles servent une finalité de sécurité alimentaire, de stabilité macroéconomique d'ensemble. C'est ça la première des priorités et on comprend bien que pour un État souverain, il faut déjà penser à nourrir sa population avant de considérer des exportations qui seront toujours une variable d'ajustement. Et donc, se positionner sur cette variable d'ajustement peut être dangereux pour des pays qui, eux, n'ont pas de stock stratégique.
Voilà un autre continent, un autre pays, un produit peut-être pas aussi vital pour les consommateurs que nous sommes, mais assurément pour les producteurs, ça l'est vital. Sur le continent latino-américain, l'Équateur est le premier producteur de bananes au monde. Pour le pays, c'est une ressource clé, mais la situation internationale a causé beaucoup de problèmes aux petits producteurs équatoriens. C'est un reportage Éco d'ici, Éco d'ailleurs, signé Eric Sanson à Quito.
Mis à part 2 à 3 semaines de baisse sensible due au manque de transport et au besoin de réorganiser le travail des dockers, les exportations de bananes n'ont pas souffert suite à l'arrivée de la pandémie. Les navires se sont succédés à Puerto Bolivar, le principal port bananier du pays, selon Paul González, qui gère le port.
Si on parle des exportations de bananes, il n'y a pas de baisse. Si on compare les chiffres de l'an dernier par rapport à 2020, on a au contraire une hausse de 31%.
Un chiffre qui étonne Dolores, une femme de la ville de Pasaje, à la tête d'une petite exploitation de quelques hectares de bananes.
On voit bien qu'il y a toujours des exportations, mais nous, on n'a pas le droit à nos quotas complets. J'ai l'impression qu'ils embarquent les bananes des grands et des moyens producteurs, ceux qui produisent de 1000 à 2000 caisses par semaine et pas des petits comme moi.
Il y en a pourtant une autre. Normalement, 6 millions de caisses de bananes sont exportées à la semaine. Suite à un dérèglement climatique et à une arrivée plus tardive des grosses chaleurs, La quantité de bananes disponibles a été beaucoup plus importante que prévu en février, mars et même avril. Il n'est donc pas illogique que les exportations aient augmenté, mais elles auraient pu être très supérieures sans la pandémie. Selon le journaliste de Machala, Celio Rosario, 30% de la production n'a pas pu être exportée.
Plutôt que de la jeter, les producteurs ont préféré donner la banane qui a mûri et qui n'a pas été exportée à la population la plus pauvre de la province.
Majoritaire en Équateur, les petits et moyens producteurs de bananes, comme Dolores, sont aujourd'hui confrontés à des prix inférieurs au coût de production.
6,40 $ la caisse, c'est le prix minimum fixé par le ministère de l'Agriculture. On ne doit pas nous acheter à moins, mais les importateurs fixent le prix qu'ils veulent et on doit décider si on accepte de vendre ou pas. Ils sont descendus jusqu'à 2 $ la caisse et là, on est encore en dessous du minimum, à 3,50 $, 4 $ la caisse.
Légalement, la seule façon de vendre des bananes en Équateur est par le biais d'un contrat respectant le tarif minimum fixé par les autorités. Dans les faits, c'est souvent le prix du marché, le prix spot, qui s'impose. Il était ces dernières années supérieur au tarif des contrats que les producteurs n'avaient donc pas toujours intérêt à respecter. Cette année, c'est le contraire et les prix ont chuté, selon le producteur et dirigeant syndical Paul González.
Le ministre de l'Agriculture a écrit aux différents importateurs de bananes équatoriennes exigeant qu'ils respectent les contrats et le prix minimum dû aux agriculteurs. Le ministre a bien vu que le problème ne venait pas des exportateurs installés en Équateur, mais des importateurs basés à l'étranger. Il a même menacé de leur retirer le permis d'usage de leur marque dans le pays.
Sauf que dans un marché dynamique comme celui de la banane, cette menace pour l'heure ne semble pas suffisante pour faire remonter les prix. Les producteurs demandent donc des crédits bon marché pour entretenir leurs plantations en attendant un hypothétique retournement du marché.
Un reportage signé Eric Sanson à Quito, Quito où la pandémie frappe également l'Équateur. Sébastien Abyss, comment est-ce que vous intégrez ce que nous raconte Eric Sanson dans vos raisonnements, dans votre discours sur la manière dont la pandémie frappe le monde agricole ?
Je crois que dans le cas qui vient d'être évoqué, on a une belle illustration de production qui, encore une fois, ne pousse pas dans tous les pays du monde, mais qui sont consommées sur tous les continents. Le cas de l'Équateur et de la banane est assez emblématique parce que c'est le premier pays qui en exporte. Il faut quand même avoir aussi l'importance de ce produit pour l'économie équatorienne. C'était 1 milliard d'exportations, grosso modo, en banane il y a 15 ans, et c'est environ 4 à 4,5 milliards de dollars d'exportation aujourd'hui, la banane équatorienne. Ce qui est intéressant, on parlait de la Russie précédemment, c'est que 25% des exportations de la banane équatorienne vont en Russie. Je crois que c'est toujours utile de rappeler ces flux, parce qu'évidemment, on ne fait pas de production de bananes en Russie. Donc, je crois que c'est une illustration, encore une fois, qu'on est dans un système alimentaire mondial qui n'est pas parfait, mais qui est une photographie de réalité, encore une fois, tant géographique que d'attente de consommation. La question de la banane est un symbole d'une Europe et d'une consommation en Europe qui accède aujourd'hui à tous les produits, quelles que soient les périodes de l'année. Et on pourrait parler de la même chose avec les mangues, on pourrait prendre beaucoup de produits autour des fruits et légumes qui sont ce symbole d'une mondialisation sur nos tables. On peut demain proposer de corriger ces éléments. Il faudra du coup considérer à la fois les impacts sur les pays producteurs et exportateurs. Si on achète moins de bananes en Équateur, quelles conséquences socio-économiques sur l'Équateur? Et en même temps, comment expliquer demain à des consommateurs qu'on arrêterait de leur apporter dans leurs rayons de supermarché ou dans les circuits de consommation de différents types des produits venant du reste du monde? Encore une fois, on peut l'imposer, on peut fermer les frontières et réduire et démondialiser nos assiettes, mais en ayant conscience des risques, tant pour les pays producteurs-exportateurs que pour les consommateurs qui avaient quand même soif de liberté et de curiosité nutritionnelle. Ce qui est vrai dans la banane équatorienne, vous pouvez le renverser dans l'autre sens avec les céréales européennes ou russes, dont une partie du monde dépend. Donc, encore une fois, demain, comment rester ouvert dans un monde qui se fermerait? Est-ce qu'on veut démondialiser l'agriculture et le système alimentaire mondial? Attention au danger, ça ne veut pas dire qu'il faut tout mondialiser n'importe comment et libéraliser sans règles et sans mesures de protection des uns et des autres, sans sacrifier évidemment le marché national pour commencer, Mais encore une fois, sachons raison garder dans les équilibres, pas d'excès, mais pas d'excès dans l'autre sens non plus, sans doute sur la démondialisation.
Patricio Mendez-El-Villar, vous connaissez très bien l'Amérique latine. Est-ce que vous pensez que ce continent a intérêt à démondialiser, comme le dit Sébastien Abyss? Est-ce qu'on parle beaucoup, à la faveur de cette crise du Covid, d'une démondialisation, d'une fermeture des frontières, d'une régionalisation des productions, de relocalisation? Alors évidemment, comme le disait Sébastien Abyss, on ne va pas aller produire des bananes en Russie, où il fait trop froid, où le climat n'est pas propice. Mais est-ce que c'est envisageable, cette démondialisation?
Je ne sais pas. Là, pour le cas du riz, puisque c'est...
C'est votre tasse de thé, si je peux dire.
Voilà, c'est mon fonds de commerce. En fait, l'Amérique latine et, de manière générale, le continent américain, c'est déjà un marché régional. Je veux dire que les échanges, beaucoup d'échanges se font à l'intérieur du continent. En tout cas, pour le riz, c'est le cas. Évidemment, c'est moins vrai pour d'autres productions, notamment la banane ou le café. Mais en tout cas, pour ce qui concerne les céréales et le riz en particulier, les échanges se font essentiellement au niveau régional. Et là, ce qu'on entend surtout en ce moment, c'est la coopération, c'est les échanges, renforcer les échanges au niveau régional.
Alors, bien sûr, les échanges agricoles, Patricio Mendez-El-Villar, ils ne concernent pas que les denrées directement alimentaires. La fermeture des économies internationales affecte la filière textile, et au démarrage de cette filière, il y a pour partie la production de coton. Exemple de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, avec ce reportage Éco-d'ici, Éco-d'ailleurs, signé Yaya Boudani à Ouagadougou, au Burkina Faso.
Des concertations entre sociétés et producteurs de coton ont lieu régulièrement au siège de l'interprofession du coton du Burkina autour de la prochaine campagne. La quasi-totalité de la production de 2019-2020 a été déjà vendue, selon Ali Compaoré, directeur général de la société cotonnière du Gourma.
Pour ce qui concerne la campagne 2019-2020, où nous vendons donc par anticipation, l'essentiel des ventes était déjà réalisé quand nous sommes arrivés pratiquement en mars, où nous avons connu donc une chute drastique des cours du coton, qui sont ressortis à peu près à moins 26% par rapport à la période écoulée.
Malgré tout, la situation liée à la maladie du coronavirus inquiète énormément les producteurs de coton. Les sociétés cotonnières du pays redoutent des retards dans l'embarquement et les risques d'annulation de contrats.
Nous connaissons déjà des retards d'embarquement, ce qui impacte effectivement nos coûts de production. Parce que nous allons devoir stocker aussi longtemps, en attendant que le coton soit embarqué. Ça augmente les coûts de mise à fob. Donc, ce qui renchérit le coût de revient. Il y a aussi le fait que, avec la fermeture des usines en Chine, des filatures en Chine, au Bangladesh, en Inde et même au Vietnam, nous redoutons également des suppressions de contrats.
Environ 188 000 tonnes de fibres de coton issues de la dernière campagne attendent d'être embarquées pour l'exportation. Mais du côté des producteurs, les indicateurs ne sont pas rassurants. Certains attendent d'avoir une bonne visibilité sur la situation avant de s'engager pour la prochaine campagne, selon Yakuba Koura, vice-président de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina.
Aux dernières nouvelles, il y a beaucoup de clients qui ont annulé des contrats de vente et pour le moment, il n'y a pas de visibilité pour nous permettre de vendre et de s'engager. Donc tout le secteur a peur. On ne sait pas quand la pandémie s'arrêtera, ça joue beaucoup. Je pense que ça va perdurer car le coton n'est pas la première nécessité. Tout le monde va parler de l'alimentation d'abord.
Les sociétés cotonnières ne se font pas d'illusions. Elles s'attendent à une baisse des cours du coton, ce qui aurait pour conséquence une baisse de la production et du coup, une baisse des exportations.
Pour la campagne 2020-2021 qui va démarrer, nous allons faire face à un cours mondial complètement déprimé qui aujourd'hui tourne autour de 800 francs par kilogramme de coton graines, ce qui est nettement en deçà de nos coûts de revient.
Selon le directeur général de la société cotonnière de Gourma, il est souhaitable que le gouvernement maintienne sa subvention annuelle de 14 milliards de francs CFA, un peu plus de 21 millions d'euros, afin que la campagne 2020-2021 se déroule dans la sérénité.
Un reportage signé Yaya Boudani à Ouagadougou. Sébastien Abyss, là on entre de plein pied dans la crise quasi-industrielle qui a des répercussions sur l'économie agricole de l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique centrale. Est-ce que c'est une préfiguration du monde de demain?
Peut-être, mais je crois que plutôt que de parler du monde de demain, il faut parler des mondes qui viennent. Les mondes qui viennent seront de plus en plus contrastés. Je ne crois pas trop au monde d'après où tout serait radicalement différent. Je crois que dans les mondes qui viennent, on aura des situations qui vont confirmer des tendances qui étaient déjà à l'œuvre. Et puis, on a des ruptures qui vont évidemment émerger. Ah bah, des tendances sur le fait qu'il y aura une fragilisation de nos sécurités humaines. Je crois que ces dernières années, on s'est trop peu attardé sur le fait qu'autour de l'alimentation, autour de la santé, autour de l'environnement, l'interdépendance mondiale se renforçait, les risques augmentaient et que pour contrer les risques dans un monde qui devenait interdépendant, il fallait plus justement de multilatéralisme et de coopération, plus de partage d'expériences, plus de réponses scientifiques collectives. Et je crois que par rapport à la question qui est la vôtre, encore une fois, le grand défi dans les mondes de demain, tant pour la sécurité alimentaire mondiale qu'un certain nombre de défis qui sont systémiques, nous devons espérer que l'aspect solidaire, l'aspect collectif, l'aspect multilatéral soit préservé. Parce qu'encore une fois, si chacun se replie sur soi et chacun considère que l'injonction sanitaire du Covid, qui était pour être solidaire, soyons isolés, se transforme sur un terrain politique, ça, ce serait extrêmement périlleux. Je crois que dans les mondes qui viennent de demain, la complexité des situations exigera d'être hyper intensif en réponse, en savoir, en connaissance, en innovation pour permettre justement d'amortir les chocs. Et on aura besoin de toutes les expériences, de tous les modèles agricoles et de regarder toutes les nouvelles attentes également sociétales ou environnementales. Tout ça est un défi complexe. Le secteur agricole, encore une fois, n'est pas un sujet qui appartient au passé. Le plus vieux métier du monde et la plus vieille des préoccupations humaines risque d'être absolument incontournable.
Frédéric Courleux, vous partagez le point de vue qu'exprime Sébastien Bis sur cette nécessité de renforcer le multilatéralisme. Alors, c'est un thème un peu barbare pour dire le dialogue, les organisations internationales, les renforcer les échanges verbaux, les échanges diplomatiques.
Alors, justement, pas seulement verbaux, il ne faut pas que ça en reste seulement à des déclarations ou des injonctions de ne rien faire. C'est un peu le paradoxe, et c'est comme ça qu'on peut traduire ces injonctions de ne pas mettre en place de freins aux échanges. Il faut être beaucoup plus proactif. Sébastien l'a dit à juste titre, on a besoin d'amortir les chocs en agriculture. Ça veut dire quoi? Très concrètement, ça veut dire qu'on a besoin de stocks et qu'on a besoin d'une coopération sur les stocks au niveau international. On a un très bon exemple sur le riz, Patricio confirmera, avec la diplomatie du riz de l'ASEAN, plus 3, où les grands pays producteurs du sud-est asiatique échangent des informations sur leur niveau des stocks. Ça permet de garder un niveau de confiance et ça permet d'éviter les emballements tels que ceux qu'on avait connus en 2007-2008. Donc oui, on a besoin de multilatéralisme, oui, on a besoin de coopération. Ce qu'il faut dire, ce qui nécessite de sortir de la logique actuelle où on a plutôt confié au marché l'autorégulation. On fait peut-être trop confiance aux logiques marchandes et à la concurrence et au bienfait de la concurrence. Il faut renouveler un certain nombre de choses dans les instances internationales et reparler de coopération, notamment en allant rechercher dans l'histoire ce qu'il se passait avec les accords sur produits de base qui permettaient tout au long du XXe siècle jusqu'au début des années 80 de sécuriser leurs clients en leur indiquant qu'ils s'engageaient à avoir des niveaux de stock suffisants.
Je vais juste poser la dernière question à Patricio Mendez-Elvilla. Est-ce que vous confirmez qu'il y a des accords régionaux en Asie du Sud-Est sur le niveau des stocks de riz?
Oui, il y a des accords, mais ça concerne, c'est des quantités assez limitées. Ce qui est important à savoir là-dessus, c'est que c'est une instance de dialogue. Plus que de coopération, c'est des dialogues, c'est-à-dire que les pays échangent et ils se mettent d'accord sur ces stocks, mais aussi sur les échanges.
Merci Patricio Mendez-Elvilla. Cette émission est maintenant terminée. Je suis désolé de vous couper aussi brutalement, mais on a déjà dit beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de reportages. Merci à vous trois, Sébastien Abyss, Patricio Mendez-Elvilla, Frédéric Courleux, d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous pouvez nous réécouter sur le site www.rfi.fr ou sur l'application Pure Radio de votre smartphone. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici. Écho d'ailleurs sur RFI. Tout à l'heure sur